RCF. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous posons nos micros à l'Inclusive Day, journée consacrée à l'inclusion, l'insertion et le travail des personnes en situation de handicap. Depuis 8 ans, l'Écho des Solutions explore le monde du travail qui est, comme vous l'avez pu le constater, en constante évolution. Cependant, malgré les progrès réalisés, il reste un domaine où l'égalité des chances n'est pas encore pleinement réalisée. Je veux bien évidemment parler de l'intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises françaises. Alors que la France s'efforce de promouvoir la diversité et l'inclusion, il est nécessaire de se pencher sur les défis qui restent persistants auxquels sont confrontées les personnes handicapées sur le marché du travail, mais aussi de comment les entreprises évoluent sur cette question. Et la question, c'est évolue-t-elle ? Car s'il y a des avancées significatives qui ont été accomplies, que des lois ont été adoptées pour garantir l'accessibilité des lieux de travail et des lieux publics, et que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à la question en mettant en place des politiques d'inclusion, il n'en demeure pas moins que des obstacles demeurent. Le premier défi, selon moi, réside dans les préjugés, les stéréotypes. Trop souvent, les personnes en situation de handicap sont perçues comme incapables d'accomplir certaines tâches ou de rivaliser avec leurs collègues non handicapés, des perceptions qui, de fait, limitent les opportunités professionnelles et parfois ont des pensées limitantes, même jusqu'à travers les RH, et entravent le développement et la gestion des carrières des personnes en situation de handicap. Ensuite, il y a la question de l'accessibilité. Même si des progrès ont été réalisés dans ce domaine, de nombreux lieux de travail restent inadaptés parfois aux besoins des personnes handicapées, qu'il s'agisse d'infrastructures physiques ou d'outils numériques. L'accessibilité doit donc être aussi une priorité pour garantir l'inclusion de tous. Et puis, en outre, il est aussi essentiel de reconnaître les compétences et les talents de ces personnes. Quid donc des RH et de la gestion des carrières. Il est donc nécessaire de repenser peut-être notre conception du handicap, de le voir comme une source de diversité, de richesse. Une étude récente démontre d'ailleurs que les entreprises qui intègrent activement des personnes handicapées bénéficient d'une plus grande performance de l'entreprise, car elles favorisent nettement l'innovation et la créativité. Alors, comment pouvons-nous aller de l'avant ? Comment pouvons-nous créer un environnement de travail véritablement inclusif où chacun a la possibilité de s'épanouir ? C'est une question à laquelle nous devons tous réfléchir et agir. C'est peut-être même le cœur de cette émission, et démontrer qu'ensemble, nous pouvons dépasser les limites et bâtir un avenir où le handicap ne sera plus un obstacle, mais une partie intégrante de la richesse humaine, de nos entreprises et de notre société. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'Écho des Solutions comme toutes les semaines. Et on continue nos balades, hein, puisque la semaine dernière, je vous emmenais à Toulouse au salon Cycléo. Et bien cette fois-ci, nous partons à Paris. Et à Paris, nous avons posé nos micros à l'Inclusive Day, ce salon consacré à l'emploi, à l'inclusion et à l'insertion par le travail et l'emploi des personnes en situation de handicap. Une émission en partenariat avec Place pour tous et le Club Être. Et au programme, eh bien, nous allons évoquer cette question du handicap et surtout se poser de la question, bah, le handicap de l'entreprise, dans l'entreprise, où est-ce que l'on en est ? Et pour ce faire, j'ai plein d'invités. On est ici à l'Inclusive Day. Alors, on est dans un petit bureau qui nous a été donné pour l'occasion. Donc, vous n'entendez pas l'ambiance de ce salon qui bat son plein depuis le début de la journée. Et à mes côtés, je vous présente nos invités un peu dans le désordre. Tout d'abord, à mes côtés, rapprochez-vous du micro, Sabine Bourbonnais. Vous êtes responsable projet émission handicap chez Air France. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous. Bonjour à tous.
En face de moi, j'ai la joie d'avoir notre amie Caroline Fruchot. Caroline Fruchot qui a été lauréate HUP. Et vous savez combien on apprécie HUP dans cette émission. Bonjour Caroline.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et puis Thomas Bouquet, est invité des 7 minutes pour changer le monde, qui est là. Il s'agit de Deza Gembok, je l'ai bien prononcé ?
Exactement, bonjour.
Deza, avec vous, vous serez nos grandes oreilles pendant cette émission. On vous donnera un micro pour évoquer justement les points positifs, les points négatifs, ce qui vous a étonné, ce qui vous a choqué, ce qui vous a donné de l'espérance dans nos échanges, et puis bien sûr parler de votre activité. Et on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Pascal Andrieux. Il est responsable de l'engagement social et sociétal et délégué général de la Fondation Malakoff Humanis, qui fête ses 10 ans. Il est notre invité éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec mon invité, donc notre invité éco de cette semaine, il s'agit de Pascal Andrieux, comme je viens de le dire à l'instant. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal Andrieux, la Fondation Malakoff Humanis fête aujourd'hui ses 10 ans, enfin en tout cas cette année fête ses 10 ans. Vous êtes un des partenaires de ce salon de l'Inclusive Day.
Oui, on est merci de la question. Oui, on est un des partenaires du salon, alors pas forcément au nom de la Fondation, hein, mais plutôt au niveau de l'engagement global du groupe à la fois sur les sujets de handicap, de diversité, d'inclusion et plus globalement de soutien aux innovations sociales. Hein. Donc rapidement, on intervient sur 3 sujets. Bien entendu, on a une fondation qui porte des sujets d'intérêt général et qui vise notamment sur l'emploi, accompagner des porteurs de projets hein, qui essaient de faire bouger les lignes en complément des dispositifs réglementaires. Et on est aussi présent à côté de nos clients. On est un assureur santé prévoyance, vous le savez, on a 400 000 clients et notre objectif aussi, c'est d'accompagner nos clients dans leur politique handicap. Mmh. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire en fonction de la taille de l'entreprise et autres. Parce qu'on s'attaque, dans les grands groupes, on pense qu'on a quand même des missions handicap qui sont quand même structurées, organisées. Mais dès qu'on est sur des entreprises de moins de 250 têtes, c'est des fois plus complexe. Mmh. Et puis, troisième volet, on agit également en interne où on essaye d'avoir une politique handicap la plus vertueuse possible. On a un taux d'emploi qui doit être à 10,5 à peu près. Mmh. À peu près à 10,5. Et puis, dans la politique qu'on a également vis-à-vis des alternants, ce qui est un point important, on a aussi la nécessité pour les alternants d'avoir aussi des jeunes en situation de handicap, bien entendu.
Alors, la fondation a 10 ans déjà pour votre fondation. Quel bilan on peut tirer de ces 10 années, sachant que, en gros, une fondation fonctionne avec une dotation tous les 5 ans, donc ça, on commence la troisième dotation, c'est ça ?
Bonne remarque. Donc, oui, là, on est passé sur un budget de 3 millions à 5 millions d'euros qui permet d'accompagner des projets d'innovation sociale sur 4 thématiques phares que sont l'accès à l'emploi, que vous avez évoqué, bien entendu le parcours de soins, parce qu'on est quand même l'assureur santé-prévoyance, et puis des problématiques comme le sport qu'on traite depuis 2009. On n'a pas attendu les Jeux paralympiques à Paris pour s'engager sur le sujet, bien heureusement. Et puis la problématique de la culture qui est souvent malheureusement délaissée, hein, considérée comme accessoire pour beaucoup, qu'on traite de manière assez massive depuis maintenant 5-6 ans. On essaie de faire au mieux par rapport à nos moyens.
Alors justement,
et à la compétence de nos équipes.
Quel bilan on peut tirer de ces 10 années? Alors, quelles ont été les grandes thématiques développées et peut-être aussi les quelques, je vais pas dire les freins, mais les sujets sur lesquels vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas pu aller, ou vous aimeriez aller et qui sera peut-être le fruit de la prochaine de la prochaine dotation?
Très bonne question. Donc globalement, on pense toujours qu'on fait très bien. Qu'on accompagne des projets qui ont du sens et qui ont un impact sur la société. Donc ce qu'on a décidé de faire l'année dernière, c'est qu'on a décidé de réaliser la mesure d'impact de la fondation. Donc, on a été interrogé, tous les porteurs de projets accompagnés par la fondation depuis l'origine, donc avec un cabinet extérieur, hein, donc pour garder la partie, comment je veux dire, éthique et indépendance. De cette étude d'impact, qu'est-ce qu'il en sort globalement? C'est plutôt positif, avec beaucoup de 80% des porteurs de projets qui ont maximisé leur impact et le nombre de bénéficiaires concernés. Une vraie évolution, un peu plus de 80% également dans le modèle stratégique, dans la création de communautés, enfin beaucoup de points positifs, hein, et des projets qui ont progressé aussi dans la chaîne d'innovation. Et puis, bien entendu, ces porteurs de projets. Donc là, l'idée, c'est que finalement, on s'arrête à un moment donné, on fait un diagnostic de ce qu'on est en capacité de faire, ce qu'on fait bien, pas bien. Et puis, on essaie de travailler pour les 5 ans qui arrivent, hein, continuer à être présent en termes d'innovation. Et ce que nous disent les porteurs de projets, c'est globalement, on veut être accompagné encore de manière plus massive sur la mesure d'impact. Globalement, on accompagne 40% de nos porteurs de projets chaque année sur leur mesure d'impact. Beaucoup veulent être accompagnés dans la partie financement. Donc, ils ont du mal à trouver des financeurs publics, privés. Donc, ils veulent qu'on soit beaucoup plus présents sur ce sujet-là, sur les sujets juridiques, sur des sujets de stratégie financière et autres. Donc, voilà.
Alors, on vous voit beaucoup communiquer sur les JO. Vous disiez à l'instant, on n'a pas attendu les JO de Paris et les JO paralympiques pour s'intéresser à la question du sport. Je parlais de discrimination, de la discrimination. Vous communiquez beaucoup sur le fait qu'en fait, on voit beaucoup certaines formes de handicap, on les voit un peu massivement. Ça manque un peu de trisomique dans tout ça. Excusez-moi de l'annoncer aussi clairement, mais dites finalement, la trisomie est assez absente des Jeux paralympiques.
Ce qu'on dit, c'est que les Jeux paralympiques ne sont pas des Jeux inclusifs.
Parce qu'il manque des gens.
C'est un peu détonné, mais bon, c'est comme ça. On a la chance de pouvoir dire ce qu'on a envie, donc tant mieux. Oui, parce que dans la mesure où vous avez toute une partie de personnes en situation de handicap, notamment les personnes atteintes, déficientes intellectuelles atteintes d'un surhandicap comme la trisomie et les personnes autistes qui n'ont pas le droit de participer aux Jeux paralympiques. Nous, on milite avec d'autres acteurs pour qu'en 2030, on permette, pour la première fois dans des Jeux d'hiver, d'avoir des déficients intellectuels qui participent à ces épreuves.
Et alors, quelle est la limite ? Pourquoi il y a une interdiction ? C'est trop compliqué parce qu'ils ne font pas les performances nécessaires ?
C'est pas que ça. Donc, il y avait, en 2020, lors des Jeux paralympiques, vous aviez des... L'équipe espagnole de basket avait des déficients intellectuels qui n'étaient pas des déficients intellectuels. Mmh. Donc en 2020, suite à cette, on peut dire,
donc,
cette
ils avaient triché,
on a retiré tous les sportifs déficients intellectuels. Certaines catégories ont pu revenir en 2012 à Londres. Donc il y a eu vraiment un effort important qui a été réalisé à Londres. On a permis à des déficients intellectuels, en athlétisme, en tennis de table et en natation, de participer, mais seulement dans certaines épreuves. Et depuis 2012, statu quo, rien ne bouge. À Paris, rien de pas de changement, pas plus. Et donc, maintenant, la prochaine fenêtre de tir est 2030. Mmh. Les Jeux d'hiver auront lieu en France. Donc là, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit du monde olympique, paralympique, des acteurs publics, privés, qui sont en train de militer, justement, pour qu'on permette à ces sportifs skieurs de participer aux Jeux. Parce qu'on part de loin. Hein. Vous avez encore des fédérations qui considèrent que pour un skieur déficient intellectuel, il lui faut d'autres pistes de ski. Hein. Mmh. On en est là. Hein, donc y a... mais les choses bougent. Hein. Là, on voit bien en 3-4 mois, les choses commencent à bouger. Mmh. Et on espère...
Que ce sera pour les prochaines... Voilà.
C'est pour ça qu'on considère que les Jeux, en tout cas à date, ne sont pas des Jeux purement...
Inclusifs. Vous êtes aussi investi dans la culture. Pourquoi cet engagement ? Je me disais, à un moment donné, je regardais la communication des Restos du Cœur et je me dis, mais finalement, il n'y a rien sur la culture. La culture a du cœur, où on permettrait aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui n'ont pas de revenus, de simplement passer pour chercher une place de théâtre. Et je trouve que ça manque. C'est pour ça que la Fondation va aussi la culture, pas que.
Si, vous avez totalement raison. Il y a 6 ans, on a fait une première étude avec BVA. Qui a montré que globalement, 60% des personnes en situation de handicap étaient freinées dans leur accès à la culture, et notamment dans les festivals de musique et dans les théâtres. Donc de ce fait-là, nous, on a décidé d'investir ce sujet-là, qui est souvent considéré comme accessoire. Il faut que j'ai un parcours de soins qui soit top, il faut que je puisse avoir un job, mais la culture, c'est quelque chose d'accessoire, d'ailleurs comme pour les personnes valides. Hein, ce n'est pas qu'une question que pour les personnes en situation de handicap. Et donc on a décidé d'investir ce sujet de manière la plus...
Massive
et propre possible. Donc on soutient globalement une vingtaine de festivals de musique par an, de tout type. On soutient des philharmonies, des théâtres, dans le cadre des expositions qu'ils organisent et autres.
Alors quand vous dites vous soutenez, ça veut dire sous quel ordre? Vous les aidez à travailler l'accessibilité? Parce que souvent, c'est que l'accessibilité...
Quand on parle d'accessibilité dans un festival, on parle de 3 choses.
Hein. C'est ça.
On parle de l'accessibilité, bien entendu, des lieux. Il faut pouvoir se rendre au festival, des installations... Il y a l'accessibilité des services, des prestations. Il faut qu'une personne en situation malentendante puisse écouter le concert, par exemple. Et puis, on parle bien entendu de l'accessibilité numérique des sites Internet. Donc, on commence par, pour faire simple, on accompagne les festivals sur une durée de 3 années. On commence par un audit d'accessibilité. Et suite à cet audit, on a une démarche upgradée sur 3 ans pour qu'au moment donné où le groupe se retire, le festival soit le plus friendly possible pour les personnes en situation de handicap. Et je précise pas que forcément les fauteuils, mais tout type de handicap.
Donc 3 millions, c'était la dotation du dernier quinquennat. Le prochain quinquennat, c'est 5 millions par an sur 5 ans, c'est-à-dire 10 millions de plus. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces 10 millions, Pascal ?
Ben, on va compter.
Je vois des A qui...
Je ne lui parle pas. Non, ce qu'on veut continuer, nous, c'est à soutenir des projets d'innovation sociale de la manière la plus intelligente possible, être beaucoup plus dans l'accompagnement extra-financier que dans l'accompagnement financier, bien entendu. Et voilà, donc, c'est l'idée, en tout cas.
Merci beaucoup, Pascal Andrieux, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On retrouve tout de suite, nous, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors cette semaine, vous voulez revenir sur les élections européennes prévues le 9 juin prochain, alors que la campagne commence à peine. Quels enjeux vous semblent importants à relever pour les dirigeants d'entreprise, Pierre ?
Pour répondre à votre question, je voudrais m'appuyer sur un texte publié par l'UNIAPAC il y a quelques semaines. L'UNIAPAC, pour vos auditeurs, c'est une association qui réunit des chefs d'entreprise chrétiens issus de 11 pays européens et représentant à peu près 5000 entreprises de taille et de secteurs différents qui emploient à peu près toujours autour de 100 000 personnes. Leur message vise à faire prendre conscience aux membres du Parlement européen de la nécessité de placer l'économie au service de la personne humaine et du bien commun, et ils insistent aussi sur le rôle majeur qui est le leur dans la résolution des grands défis d'aujourd'hui et de demain.
Alors quels sont donc justement les grands défis qu'ils identifient, Pierre ?
Comme d'habitude, je n'aurai pas vraiment le temps nécessaire pour développer l'ensemble du texte que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de l'UNIAPAC. Mais en s'inspirant de la pensée sociale chrétienne, ils identifient quatre questions cruciales pour l'Europe. L'écologie intégrale, l'ère numérique, le travail décent pour les migrants et l'unification de l'Europe.
Rien finalement de très classique, Pierre, non ?
Certes, tous ces thèmes nous sont connus, mais il faut les replacer dans leur finalité, qui est la dignité de la personne humaine, et en particulier celle des plus fragiles, qui, me semble-t-il, est vraiment fondamentale. Les membres de l'UNIAPAC insistent sur le fait que tous nos compromis doivent être au service du bien commun, et notre politique d'écologie intégrale doit s'appuyer sur les principes de solidarité, mais aussi de responsabilité, d'humanité et de subsistance. C'est important de le dire et de le redire, surtout au moment où le dicaster pour la doctrine de la foi, vous le savez, nous rappelle dans son texte « Dignitas Infinita » paru il y a quelques jours, qu'on ne peut pas transiger sur cette question de la dignité humaine.
Alors parmi les autres messages sur lesquels vous voudriez-vous insister, Pierre ?
Tous sont intéressants, mais je serais tenté d'insister sur l'importance donnée à la question de l'unité de l'Europe. Pour que les entreprises européennes puissent prospérer sur les marchés mondiaux, disent-ils, nous avons besoin d'une Europe politiquement unie, pourvue de deux poumons permettant à l'Est et à l'Ouest de respirer ensemble. Alors si, comme le disait Paul VI, le développement est l'autre nom de la paix, je crois qu'il faut vraiment soutenir fermement l'idée qu'une Europe unie, fondée sur le développement économique et la solidarité, permettra d'assurer cette paix.
Merci beaucoup Pierre Collignon, on vous retrouve d'ici quelques semaines. D'ici là, nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions et on se retrouve avec tous nos invités depuis le Paris Défense Arena pour évoquer la question de handicap dans l'entreprise. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'entreprise sur la question du handicap ? C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités d'ici quelques instants dans l'écho des solutions.
Je suis... Parfois beaucoup trop petit, je vis souvent m'effaçant, peu importe où je suis.
C'était Mika sur RCF qui nous interprétait Birkin, une chanson hommage à Jane Birkin. Nous on retrouve tout de suite tous nos invités. On est présents depuis le début de cette émission à la Paris Défense Arena, à l'Inclusive Day. Et on parle entreprise et handicap. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement sur ce dossier ? L'entreprise et le handicap, c'est le dossier de l'écho des solutions. On se retrouve juste après cette petite virgule.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. On a posé nos micros à l'Inclusivenet, au Paris Défense Arena, lieu mythique pour les concerts qui va devenir le lieu mythique désormais sur la question du handicap avec trois invités pour évoquer cette question entreprise et handicap. Où en sommes-nous? Et mes invités, bien, je vous les présente. Je vous les ai présentés au début de cette émission, mais je vous les représente maintenant. Il s'agit de Sabine Bourbonnais, responsable projet handicap chez Air France. Bonjour Sabine.
Bonjour Patrick. Bonjour.
Avec vous, on va voir comment l'entreprise construit une politique RH, comment on gère les carrières des personnes en situation de handicap, comment on les accompagne aussi sur des questions peut-être toutes simples qui sont la vie et le quotidien. Vous nous expliquerez comment chez Air France, eh bien, on prend en compte cette situation. En face de moi, Caroline Fruchot, entrepreneuse, lauréate du prix H-Up Entreprise. Vous avez fondé Hostbox avec une idée toute simple qui vous est venue dans votre lit d'hôpital. Si on offrait des cadeaux à ceux qui sont hospitalisés, et vous avez créé cette fameuse box avec des produits français. Bonjour Caroline.
Bonjour à tous.
Et parlez bien devant le micro. Avec vous, justement, on verra si l'entrepreneuriat c'est juste un pis-aller parce que vous ne trouvez pas autre chose, ou si il y a une vraie vocation à être entrepreneur, et au-delà de ça, si c'est compliqué quand on est en situation de handicap de créer sa propre entreprise, que ce soit dans les démarches, que ce soit dans la levée de fonds, que ce soit dans le développement commercial. Vous nous direz tout ça durant ce dossier. Et puis Thomas Bouquet, qui n'est pas président du CCH, hein, non, il en est le directeur et délégué général. Bonjour Thomas.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on va évoquer justement avec vous cette vision experte que vous avez au CCH, qui est cette vision peut-être un peu 360 degrés de... les entreprises, le handicap aujourd'hui dans la société, dans le monde associatif. Quels sont les besoins? Quels sont les leviers? Est-ce qu'on a tout? Comment on peut continuer à sensibiliser? Qu'est-ce qui manque pour justement à un moment donné faire, et je vais peut-être parodier un film, mais faire que finalement une personne handicapée à un moment donné, on ne se pose plus la question, le mot handicap n'est pas lié au fait qu'on soit salarié ou pas. On est salarié d'un groupe. Avec en effet une prépondérance à avoir à un handicap. Je vais peut-être commencer d'ailleurs directement avec vous, si vous voulez bien, Thomas. Vous observez la question du handicap depuis un certain temps. Hein, c'est pas vous êtes aujourd'hui au CCH. Auparavant, vous travailliez cette question dans d'autres associations. On a un corpus législatif, je le disais en introduction, qui semble être de plus en plus complet. Mais le monde de l'entreprise, selon vous, Thomas, est-ce qu'il est suffisamment outillé? J'ai presque envie de dire, on va peut-être faire la réponse à la question dans les deux minutes qui viennent et puis après la détailler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est suffisamment outillé, ou est-ce qu'il manque encore, il y a encore des trous dans la raquette?
Mon cher Patrick, au même titre qu'on n'a pas un handicap et qu'il existe bien des handicaps, il n'y a pas une entreprise et il existe bien des entreprises. Le problème que vous posez est avant tout un problème de taille de l'entreprise, de sa propre conception du handicap dans son entreprise, jusqu'au sujet des aidants, puisque on ne peut pas parler aujourd'hui de handicap sans aborder la question des aidants également. Mais je pense qu'on a aussi un sujet tout simplement lié à la capacité qu'ont les petites et moyennes entreprises à saisir le sujet du handicap et à le gérer correctement au quotidien. Donc, je pense que en fonction de d'où on part, on va essayer de trouver des réponses.
Mais aujourd'hui, le corps législatif, ce qu'on a aujourd'hui, la boîte à outils, j'ai envie de dire, sur la question du handicap, elle est suffisante ou pas? Je vous sens hésiter.
En fait, je crois pas à la contrainte. Et si on souhaite arrêter de discriminer le sujet du handicap, il va falloir sûrement faire plus confiance aux entreprises sur leur capacité à dépasser la contrainte, à agir pour les personnes en situation de handicap, les personnes concernées indirectement, les aidants, et plus globalement, l'ensemble des vulnérabilités qui composent aujourd'hui l'entreprise. Est-ce que le curseur législatif est suffisamment puissant ou pas? Je pense que je laisserai le soin.
On va lui poser la question tout de suite. Sabine Bourbonnais, chez Air France, vous pensez que le curseur législatif est d'abord est peut-être trop contraignant ou pas assez contraignant? Et aujourd'hui, est-ce qu'il vous manque des outils pour être encore plus performant dans votre mission?
je partage ce que
vient de dire Thomas
sur un point essentiel, c'est que effectivement le curseur législatif c'est un outil qu'on respecte évidemment, c'est un outil et qui est transitoire. Et je prendrai comme exemple évidemment la sortie des accords agréés. Donc Air France, nous on est concernés, hein. On vient de sortir des accords agréés. Pour autant, on a re-signé un accord, le 12e, donc ça fait 35 ans qu'on travaille avec des accords. Cet accord, il a été signé à l'unanimité, hein, donc avec tous nos partenaires sociaux. Il montre bien donc que l'engagement de l'entreprise, il est pérenne. Il n'y a pas de remise en question sur ce sujet-là, bien que effectivement la contrainte législative sur cet accord ne soit plus présente. Mmh. Voilà. Donc effectivement, ça n'empêche pas cet outil qu'on a eu là, hein, pendant 30 ans. Ben, il a permis effectivement à des grandes entreprises comme la nôtre de se structurer, et ça a été important d'ancrer effectivement des actions, de pérenniser des budgets, c'est important aussi, hein, pour travailler. Et voilà, on est sorti de l'accord. Pour autant, on continue. Nos actions, elles sont pérennes. Elles sont l'engagement de l'entreprise. Il s'inscrit dans la durée. Mmh. Il n'est pas remis en question.
Justement, vous faisiez d'ailleurs le distinguo, hein, Thomas, entre les grands groupes, et on le voit bien que chez Air France, c'est quelque chose qui est là sur le long terme, que les choses sont finalement, en fait, c'est une ligne budgétaire acceptée et agréée, même s'il faut toujours défendre un petit peu son bout de gras quand il y a les budgets qui sont faits, mais ceci étant, on ne remet pas en cause cette ligne budgétaire. Les TPE-PME, c'est plus compliqué, vous nous disiez pourquoi, parce qu'il n'y a que le patron qui est à la tête de ça, il n'a pas forcément de référent handicap, il ne sait pas par quel bout le prendre, quels sont les freins que les TPE-PME, enfin plutôt les PME, les grosses ETI éventuellement peuvent avoir?
Le premier, vous l'avez dit, c'est la ressource. Et Sabine le disait très bien, c'est 30 ans de sensibilisation, 30 ans d'organisation, 30 ans de réponse dans l'entreprise pour arriver à faire qu'à un moment donné, un groupe de la taille du groupe Air France quitte les accords par nature et pour autant se reprojette sur finalement la culture qu'elle a créée au bout de 30 ans. Et les petites et moyennes entreprises, je pense, sont convaincues de nos sujets de l'inclusion. Mais vont naturellement avoir moins de moyens, moins de ressources, moins de temps, moins de connaissances sur ces sujets-là pour pouvoir les incarner. Et je pense que le sujet de l'incarnation, il est éminemment lié à la façon dont l'entreprise conçoit ses accords. Et ça ne passe pas simplement par son directeur ou sa directrice générale, mais c'est une façon d'infuser cette culture au plus près de l'ensemble des collaborateurs pour démontrer que le handicap, c'est pas simplement le sujet du référent handicap, mais bien le sujet de tous.
Sabine, vous vouliez intervenir.
C'est ça, l'incarnation effectivement du handicap dans l'entreprise, elle passe par tous les acteurs de l'entreprise. Bien sûr, au plus haut niveau et au COMEX et au niveau de la présidence, mais également les RH, les managers sur le terrain, le service médical, le service social, les référents qui sont pour chez Air France, donc dans chaque direction, on a un référent handicap, la mission handicap en centrale, enfin tous, effectivement, on porte le sujet dans l'entreprise et à tout niveau, on doit pouvoir agir selon son périmètre et selon les actions qui peuvent être engagées.
Une écoute, et derrière cette écoute, un échange, un débat qui nous amène à poser un prédiagnostic ou un diagnostic en fonction des éléments que l'on peut recevoir, non pas pour proposer mécaniquement une formation, mais essayer de comprendre où en est l'entreprise dans ce chemin de la considération de personnes en situation de handicap dans l'emploi et dans l'entreprise, pour pouvoir mieux adapter la réponse et en fonction de cette analyse du diagnostic que l'on pose et cet échange fin que l'on doit avoir avec le RH ou avec la mission handicap ou en tout cas un acteur d'entreprise, pouvoir y apporter la meilleure réponse. On peut très bien sensibiliser sur les typologies de handicap, on peut très bien aborder la question du care management, on peut très bien échanger avec le réseau d'assistantes sociales lorsque l'on en a un pour les doter d'outils de repérage, d'orientation. En fait, on va adapter notre réponse en fonction de l'entreprise, de l'endroit où elle est située, du contexte et de ses besoins les plus primitifs.
Sabine Bourbonnais, depuis 35 ans, Air France travaille la question de l'accueil des personnes en situation de handicap au sein de ses équipes. La question que l'on peut se poser, c'est comment J'ai envie de dire, ça y est, les personnes en situation de handicap, on a compris, elles ont une place. Comment on les accompagne tout au long de leur carrière? Moi, c'est vraiment la question que je trouve un peu centrale. Se dire, on ne prend pas une personne en situation de handicap, on ne la met pas derrière, excusez-moi pour le stéréotype hein, peut-être, mais on ne la met pas derrière un comptoir ou derrière un téléphone juste à répondre parce qu'elle est malvoyante et qu'elle ne peut faire que ça. Pendant 35 ans, elle va faire ça. Comment on accompagne l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap dans l'entreprise chez Air France?
Alors, je me permets de revenir à une première étape qui, à mon sens, est essentielle, c'est quand même le recrutement.
Le recrutement, bien sûr.
On recrute d'abord des personnes pour leurs compétences. Et les personnes en situation de handicap, soit
donc aujourd'hui,
elles sont recrutées
y a pas de
pour leurs compétences.
C'est-à-dire que sur un même poste, qu'on soit handicapé ou non handicapé, on a les mêmes chances.
Exactement. Enfin, on recrute pour des compétences et effectivement, le rôle des aménagements de poste quand ils sont nécessaires, c'est de compenser le handicap pour que la personne en question puisse exprimer ses compétences de façon équitable par rapport à une autre personne qui n'est pas en situation de handicap. Ça, je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, du coup, si vous candidatez à un poste sur Air France, vous allez évidemment pouvoir déclarer que vous êtes en situation de handicap. Le service handicap se mettra en relation avec ce candidat, demandera, si vous êtes candidat, vous demandera si vous avez besoin d'un aménagement des tests, par exemple. Et puis, vous suivra votre candidature et vous recevra, si vous êtes, et on l'espère, accueilli chez Air France, pour vous présenter effectivement l'accord handicap, vous présenter les mesures. Le service médical également accompagnera la personne concernée pour, et éventuellement proposera des aménagements si c'est nécessaire.
Alors, la gestion de carrière, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'on peut commencer à un poste et finir, soyons fous, à la direction générale?
Il y a des personnes en situation de handicap dans tous les métiers, à tout niveau de poste, à tout niveau de responsabilité. 80% des handicaps sont invisibles, vous l'avez dit. Chez Air France, aujourd'hui, il y a à peu près 1800 personnes actives en situation de handicap. On fait à peu près, je vous fais des moyennes, hein, 250 aménagements de poste technique par an pour un petit peu moins de 2000 personnes. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sans avoir besoin d'un aménagement. Voilà. Ensuite, il y a l'accompagnement des parcours, comme il se fait pour tous les salariés d'Air France. Il y a des sujets de mobilité. À chaque effectivement étape clé d'un parcours, on va évaluer si la personne a besoin qu'on compense le handicap par un aménagement. Ça peut être un aménagement technique, ça peut être un aménagement organisationnel hein, également. S'il n'y a pas de besoin, eh bien voilà, tout continue comme ça. S'il y a besoin, on intervient. Et je vous l'ai dit, on intervient en collectif. Il y a parfois des situations qui peuvent être particulières, qui peuvent être même parfois difficiles, ça peut arriver. Dans ce cas-là, effectivement, on va travailler à plusieurs, services médicaux, RH, manager, salarié, pour trouver la solution la mieux adaptée pour la personne, pour l'activité qui est demandée.
Justement, accueillir les personnes en situation de handicap, ça fait 35 ans que chez Air France, vous accueillez. Est-ce que vous voyez, alors peut-être pas vous, mais est-ce qu'il y a des évolutions aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels qui sont innovants, qui sont novateurs, qui sont nouveaux et qu'il faut traiter, qu'on ne traitait pas peut-être auparavant dans une mission handicap comme la vôtre?
Vous avez parlé un petit peu de care management, c'est vrai. Aujourd'hui, comme souvent, on le dit, le handicap, c'est souvent une source d'innovation. C'est vrai, la télécommande, elle a été inventée au départ, hein, on le dit souvent, c'est pour les personnes
handicapées,
qui ne pouvaient pas se déplacer. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de care management. Alors, au départ, peut-être pour des personnes en situation de vulnérabilité, quoique les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément vulnérables, mais qui vont avoir un besoin particulier, peut-être. Et puis, finalement, ça profite à tous. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, le sujet. C'est comment on profite de ce qu'on peut mettre en place pour des situations très particulières qui vont finalement profiter à tous. On en parle pour l'accessibilité numérique. Effectivement, une personne déficiente visuelle, elle a besoin de pouvoir, adapter son logiciel au site
internet. De pouvoir zoomer, etc., avoir une visibilité.
Mais finalement, si le site il a été bien conçu, les contrastes de couleurs, eh bien, ça va peut-être aussi servir à n'importe qui a juste un petit souci. Voilà, c'est ça. Je pense que l'accessibilité, par exemple, universelle, elle démontre bien l'enjeu de profiter. De compenser un petit peu tous les sujets de vulnérabilité qui vont servir finalement à tout le monde.
Thomas Bouquet, même question, est-ce que vous voyez apparaître des nouveaux enjeux sur la question du handicap dans les entreprises?
Je vais rebondir sur ce que vient de dire Sabine. L'entreprise aujourd'hui, petite, moyenne ou grande, prend conscience de ses vulnérabilités et à la fois de son enjeu de performance et de performance économique. Et pour autant, elle va devoir faire face à des chocs qu'elle essaie de maîtriser déjà aujourd'hui. Le choc de bien gérer, entre guillemets, et bien accompagner ces personnes qui sont déjà en situation de handicap dans l'entreprise, mais toutes celles qui le sont mais qui ne le sont pas vraiment, c'est, je pense particulièrement à ces personnes non diagnostiquées et qui pour autant reconnues sur le plan administratif et pour autant sont dans l'entreprise et peuvent des fois perturber la bonne marche de l'entreprise. Et elle a appris l'entreprise. Et je pense que, comme l'histoire de la télécommande, l'entreprise a appris depuis 30 ans, depuis la loi, à aborder cette question de la complexité une entreprise face à des personnes dites singulières, différentes. Et elle va se retrouver face à ce choc, le choc du handicap, j'en parlais, le choc des aidants, le choc des vulnérabilités, et produire un nouveau type d'accompagnement. Le care management, c'est cette composante entre la performance économique, qui est quand même ce qui dicte une grande partie des grandes entreprises petites et moyennes, et en même temps, en considérant qu'elle va devoir gérer, accompagner un petit peu mieux les vulnérabilités qui sont issues de ses propres salariés. Mmh. C'est l'entreprise 4.0. C'est celle qui est capable de faire de la résilience sur un certain nombre de sujets, celle qui est capable de se marier avec des partenaires, des entrepreneurs, des partenaires médico-sociaux, des partenaires du soin, pour, à un moment donné, être autre chose qu'un lieu de productivité, mais également un lieu de ressources. Mmh. Et je connais un peu l'activité de Sabine, je connais aussi d'autres grandes entreprises. Lorsqu'on regarde leur organisation, et je prends l'exemple des assistantes sociales, qui sont au demeurant des travailleurs sociaux, qui interviennent sur l'accompagnement des salariés avec cette fonction de pouvoir les accompagner au-delà de la productivité, bien au-delà de la productivité de l'entreprise, mais bien sur des besoins fondamentaux. Et bien, je pense que l'entreprise a un nouveau défi, celui de répondre et de faire la démonstration qu'elle peut être une entreprise populationnelle face à des enjeux populationnels.
On parlait, Thomas l'évoquait, la question des aidants. Alors, on les place où, les aidants familiaux? On les place du côté du handicap? On les place plutôt du côté du social? Et puis, il y a la question du handicap. Il y a aussi les aidants de personnes handicapées. Alors, comment on les prend? Parce qu'on sait bien que c'est au cœur dans une population qui est très vieillissante, des populations qui sont aussi à risque. La notion d'aidance au sein de l'entreprise est de plus en plus présente. On en parle d'ailleurs chaque année au moment de la journée mondiale des aidants.
Alors, il est clair que l'entreprise, elle n'est pas dans une bulle complètement isolée du monde qui l'entoure. Donc, clairement, effectivement, prendre en compte les singularités, ça fait partie des sujets d'accompagnement des salariés pour que tous, ensemble, on puisse performer, en effet, et travailler bien. Donc, les aidants, oui. Alors, concernant le handicap, chez Air France, il y a deux sujets. Il y a le service social, effectivement, parce que le statut des aidants, il recouvre quelque chose qui va au-delà du handicap. Mmh. Donc, le service social a en charge aujourd'hui l'accompagnement des aidants. Pour autant, dans l'accord handicap, en l'occurrence notre 12e accord handicap, il y a des mesures qui accompagnent les salariés qui sont parents d'enfants en situation de handicap, donc qui sont en situation d'aidant. Donc, par exemple, chez Air France, les parents d'enfants en situation de handicap ont des jours supplémentaires
de congés
pour enfants malades. On accorde une bourse d'éducation pour aider les parents qui, par exemple, devraient s'occuper d'enfants qui ne peuvent pas être scolarisés ou non, sont en attente d'une place, ça peut arriver.
Je vois tout le monde autour de la table dire non, ça peut arriver, ça arrive très fréquemment.
Ou ont besoin, en tout cas, d'un accompagnement spécifique pour, dans le cadre de l'éducation de leur enfant. Donc effectivement, dans notre accord, on a une mesure pour accompagner ces salariés. L'idée, bien sûr, c'est de les accompagner, mais aussi de leur permettre de travailler. C'est bien ça, de maintenir leur employabilité. Ça rejoint aussi un autre sujet qui est l'intersectionnalité, parce qu'on le sait, dans les aidants, on retrouve quand même plus de femmes. Donc effectivement, une femme qui est maman d'un enfant lourdement handicapé, qui va travailler à temps partiel, etc., etc., eh bien oui, le rôle de l'entreprise, c'est peut-être aussi à un moment donné de lui permettre, elle aussi, de travailler comme les autres. Et de, bien sûr, de performer.
Et puis aussi de pouvoir lui permettre d'avoir aussi ses jours. On sait combien c'est important chez les aidants, cette question du répit, simplement, de se dire... Alors, soit on est une personne handicapée avec une personne aidante extérieure, mais lui dire, tiens, là, on a un petit séjour pour toi, tu vas pouvoir y aller sans ton aidant.
Alors, chez Air France, on a la chance également d'avoir une association interne qui s'appelle le Goéland. Donc, pour les salariés d'Air France qui sont concernés par le handicap, il se trouve qu'il y a beaucoup de salariés qui sont parents, mais il y a aussi des salariés qui sont eux-mêmes en situation de handicap, qui sont adhérents à cette association. Donc, on travaille également en collaboration avec cette association qui apporte des moments de répit pour ces familles, qui apporte du soutien et les aides aussi dans les démarches, c'est important. Et puis, tous les ans, donc Mission Handicap et association, on organise des moments festifs pour créer les rencontres, partager, faire connaître aussi l'association. Dans notre entreprise aussi, il y a beaucoup de choses et parfois, c'est pas assez su. Donc, c'est important de créer aussi les rencontres. C'est très, très important que les familles puissent voir qu'elles ne sont pas seules et avoir ce soutien-là.
La question que je posais et que je vous pose maintenant, tout au début, et que je vous pose maintenant, Caroline, c'est est-ce que la création de Stobox, c'est un pis-aller parce que finalement, la place dans l'entreprise, vous ne l'aviez pas trouvée, ou est-ce qu'il y avait vraiment une idée entrepreneuriale derrière?
Alors, je dirais que c'est un peu les deux. Parce que effectivement, moi, avant mon accident, donc je suis en fauteuil roulant, et avant mon accident, j'étais chef pâtissière. Donc reprendre la pâtisserie quand on est en fauteuil, c'est quand même pas forcément très évident. Donc j'ai un peu fait une croix là-dessus. Et après mon accident, donc je commençais à me renseigner, à voir ce qui existait comme école pour éventuellement reprendre des études et faire un peu autre chose. Et honnêtement, c'est très compliqué. On parlait d'accessibilité numérique, etc. L'accessibilité de l'environnement, et honnêtement, parfois, elle est un peu horrible parce qu'on a beau avoir toute la bonne volonté du monde pour se déplacer et faire quelque chose, en réalité, on est rapidement rattrapé par la réalité. Donc, j'ai un peu fait une croix sur faire des études, reprendre des études. Et à la fois, je me suis dit, s'il y a une boîte à monter, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et du coup, c'était un peu j'y vais, mais j'ai peur, quoi.
Alors, Hostobox, c'est cette boîte à destination des personnes qui sont hospitalisées. Quand je disais tout à l'heure, elle est née au fond de vos... Alors, vous êtes aujourd'hui tétraplégique, vous avez eu un accident et donc vous êtes...
Paraplégique, pardon.
Oh, excusez-moi.
C'est déjà suffisant.
Vous êtes paraplégique. Donc, c'est dans votre lit d'hôpital que vous avez eu cette idée parce que vous vous sentiez dépourvu de cadeaux ou au contraire, il y en avait trop.
Non. En fait, effectivement, ça vient bien de mon histoire personnelle. Donc, il y a 6 ans, quand j'ai eu mon accident, moi, j'ai la chance d'avoir une famille grande et extraordinaire. Donc, mes cousines et sœurs sont venues à l'hôpital avec des boîtes cadeaux qu'elles avaient elles-mêmes appelées Hostobox. Et en fait, c'était des boîtes à chaussures dans lesquelles elles mettaient diverses choses. Et en fait, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée parce que ça permettait justement de sortir un peu de son lit d'hôpital, du quotidien de l'hôpital et de reprendre un peu goût à tout l'environnement et prendre un peu soin de soi, etc. Et c'était des cadeaux qui sont hyper chouettes et qui sont encore utiles. J'ai un Polaroid, j'ai des albums photos plats à craquer, des copains qui sont venus me voir. Il y avait des défis aussi, donc j'avais par exemple une moitié de livre dans une des box, et si je réussissais pas le défi du mois suivant, j'avais pas l'autre moitié du livre. des petits trucs un peu marrants et un peu sympas comme ça. Et l'idée, là, maintenant, avec Hostobox, j'enverrai pas des moitiés de livres, c'est promis. mais en tout cas, c'est d'essayer de retrouver ce côté un peu fun et dynamique qui sort un peu des écrans aussi, parce que quand on, en tout cas, moi, ce que j'ai pu vivre, c'est beaucoup de rééducation. Et après, quand on retourne dans sa chambre, on est un peu fatigué, on a rapidement tendance à retourner derrière les écrans. Et du coup, essayer de sortir un peu de ça.
De tout ça. Ça marche bien. Vous êtes contente du démarrage de cette entreprise parce que partir dans l'entrepreneuriat en partant de rien, quand on est en situation de handicap,
On ne peut pas dire que toutes les portes s'ouvrent naturellement sur vous. Déjà, quand on n'est pas handicapé, il faut défendre son business model.
Il faut savoir pousser les bonnes portes.
Voilà, c'est ça, exactement. Vous êtes plutôt contente du travail aujourd'hui qui est effectué.
Oui, et puis il faut surtout, en tant qu'entrepreneur seul, il faut savoir bien s'entourer. Mmh. Donc moi, j'ai la chance d'être accompagnée par HUP Entrepreneur et par l'Inclusion, qui aide du coup deux structures qui aident les personnes en situation de handicap à développer leurs entreprises. Et honnêtement, ça a vraiment été des piliers dans le développement de Hostobox et qui m'aident encore actuellement pour le développement. Ouais.
Mmh. Et vous êtes de quelle manière ? C'est des rencontres régulières, mensuelles, sur des sujets économiques, de stratégie, de développement marketing ?
Un peu de tout. On a la chance, en tout cas, ils font énormément de choses. Et donc, comme on disait tout à l'heure, il y a les trophées HUP qui permettent de récompenser des entrepreneurs et surtout qui permettent des rencontres qui sont souvent hyper intéressantes, hyper inspirantes et qui permettent de, pourquoi pas, créer des liens aussi derrière, comme avec Thomas, par exemple.
Thomas Bouquet, qui est avec nous en plateau. Voilà. Ouais.
Et avec, il y a aussi des, comment on appelle, des programmes entrepreneurs qui permettent de, quand on n'y connaît pas grand chose, et ben en fait, de commencer à apprendre à faire un business model, à apprendre comment communiquer, la présence sur les réseaux sociaux, etc. Et ben, au final, qui permet d'avoir un peu quelques petits skills de début, on commence et on apprend au fur et à mesure du temps.
Vous avez pensé, vous allez penser à pousser aussi d'autres portes, d'autres réseaux. Je pense au réseau Entreprendre, je pense au réseau France Active ou Initiative France, etc. Parce que ces autres réseaux, ils sont aussi inclusifs, je pense, que les autres.
Ouais. Et en fait, d'ailleurs, pour tout dire, les deux premiers réseaux dans lesquels je suis allée, c'était Parcours Entrepreneur de Ticket for Change et Les Audacieuses à la Ruche. Et en fait, à la base, je ne voulais absolument pas rentrer dans un réseau d'entrepreneurs handis. Mmh. Enfin, vraiment, c'était, je dis non, moi je suis
entrepreneuse.
Dans ma tête.
D'abord, je suis pendie.
Donc en fait, il n'y avait pas de raison de d'abord rentrer dans ce genre de structure. Et c'est pour ça que j'ai d'abord voulu commencer par être avec eux, pour voir ce qui pouvait se faire. Et ensuite, déjà c'est là aussi où j'ai commencé à entendre parler des réseaux handis. Mmh. Et par la suite, je me dis, ok, c'est bien aussi de développer ce réseau-là. Mais à la base, je ne voulais pas du tout entendre parler.
Je suppose que des freins, au-delà de ceux de votre fauteuil, des freins pour ouvrir un compte en banque, pour demander des subventions, etc. C'est les plus grands freins quand on est handicapé et qu'on a envie de créer sa boîte, ou il y en a d'autres ?
Alors moi personnellement, ça n'a pas été un gros frein parce que le bon banquier, je l'ai rencontré via HUP Entrepreneur, donc c'était plutôt facile. Et j'ai pas encore fait de levée de fonds, mais à la fois, je trouve que j'ai quand même énormément de chance en tant que femme et en situation de handicap. Pour le moment, sans mauvais jeu de mots, on m'a pas mis le bâton dans les roues.
Thomas Bouquet, justement, la question, parce qu'on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des entreprises, mais tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, il faut aussi sensibiliser les acteurs du financement, les acteurs, j'ai envie de dire même publics et privés d'accompagnement, que ça existe et qu'il y a de l'inclusion aussi dans l'accompagnement et dans l'entrepreneuriat.
Complètement, Patrick, il y a de l'inclusion, mais je pense qu'il faut continuer à sensibiliser l'intégralité des acteurs et les entreprises, j'y reviens quand même un petit peu, doivent demain aider encore un petit peu plus, notamment lorsqu'ils sortent de 30 ans d'accord, à sensibiliser leur environnement pour justement faire la promotion de l'entrepreneuriat social de celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, et ou internaliser des programmes et je pense que ça se fait dans des grandes entreprises aujourd'hui, avec celles et ceux qui le souhaitent.
Et on arrive au terme de cet échange. Je suis désolé, c'est très court. On aurait pu rester encore de nombreuses minutes.
Il faut que je conclue sur autre chose.
Ma dernière question, et vous allez pouvoir y répondre, Thomas. C'est quoi le levier ? Quelle est la chose qui aujourd'hui est nécessaire de mettre en avant et qui manque à tout ce dispositif et à tout ce qu'on a échangé ?
Je pense que le parcours de Caroline, le témoignage de Sabine, dit une chose. C'est l'incarnation de celles et de ceux qui veulent prendre leur destin en main. Mmh. Et si demain, on veut être encore plus ambitieux lorsqu'on regardera l'entrepreneuriat social, il faut que les entrepreneuses, les entrepreneurs arrivent à travailler mieux ensemble pour aller discuter plus facilement avec des petites, moyennes et grandes entreprises, avec l'État, les collectivités, avec la BPI, etc., etc. Et ça va demander à ces entrepreneuses et ces entrepreneurs un peu de résilience pour accepter de mieux coopérer. Et le pari que je fais aujourd'hui, le pari que fait Place pour tous, c'est d'accompagner la création d'une coopérative qui serait une les premières coopératives à rassembler ces entrepreneuses et ces entrepreneurs pour s'organiser et ensemble, collectivement, essayer de trouver de l'impact à nos projets.
Ce qui, rejoint un peu ce que dit un de mes amis et invité de temps en temps de l'émission Charles-Benoît Hetzig, c'est qu'il faut faire alliance en fait et qu'à tous, on peut tout. Sabine, quel serait le levier, vous, soit celui qui vous manque, soit celui que vous voudriez actionner, quoi qu'il en coûte, pour pouvoir continuer cette démarche chez Air France
pour faire avancer les choses, continuer la sensibilisation, déconstruire les stéréotypes toujours et toujours et toujours. Les stéréotypes, ils sont bien là, travailler sur nos biais et déconstruire ensemble tous ces stéréotypes liés au handicap.
Et pour vous, Caroline, le mot de la fin ?
Eh bien, je rejoins tout à fait Sabine sur la sensibilisation. Moi, c'est ce que j'essaye de faire beaucoup sur LinkedIn. Et je vois que les gens sont friands, en fait, de ce genre d'informations parce qu'il y a un manque vraiment énorme là-dessus.
Et puis surtout, c'est toujours tourné avec beaucoup d'humour, avec beaucoup à la fois de gravité et de légèreté. Et en tout cas, ça nous sensibilise bien, moi le premier, à cette question. Merci beaucoup. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Y a-t-il de la discrimination, de l'indiscrimination dans les entreprises, question du handicap? C'est un sujet délicat, sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été nos invités. On va retrouver tout de suite Déza. Déza, elle a écouté toute l'émission. Elle a écouté toute l'émission et on va faire avec elle le point, le bilan. Et puis surtout, elle va nous expliquer qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle fait. On fait une petite virgule dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Voilà, je suis avec Déza, notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde. Bonjour Déza.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Déza, vous venez d'écouter tout cet échange. Je vous présente un petit peu. Vous êtes née, vous êtes native du Pays Bassa au Cameroun. Vous avez été communicante, vous l'êtes encore. Vous êtes aujourd'hui conférencière, experte auprès de diverses institutions et fondations sur la question du handicap, mais aussi du droit des femmes, de l'égalité, de l'inclusion. Vous avez un parcours assez je viens de dire exceptionnel, à la fois étonnant et détonnant. Et en même temps, vous êtes aussi une femme en situation de handicap. On va revenir sur votre parcours, mais avant tout, je voudrais avoir votre retour sur cet échange qui a eu lieu. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les points positifs ou négatifs que vous avez pu relever autour de ces échanges que nous avons eus depuis le début de cette émission?
C'était très passionnant d'écouter tous ces acteurs échanger sur un projet qui me porte au quotidien. Il y a de l'espoir quand on voit des structures comme la Fondation Malakoff Humanis Handicap qui investissent énormément d'argent, qui accompagnent énormément d'acteurs sur la question du handicap avec une volonté de les accompagner, même à mesurer leur impact dans la société. Ça, c'est très positif et ça me donne de l'espoir. Et oui, j'ai envie de dire que l'avenir a de belles couleurs par rapport aux questions du handicap. C'est pareil pour Air France. J'étais très agréablement surprise.
Pourquoi agréablement? Vous ne vous attendiez pas à ça de la part d'Air France?
Non, parce que en tant que voyageur en situation de handicap, je rencontre beaucoup de personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés avec Air France. Et donc, c'est un sujet que j'ai toujours eu envie d'apporter.
La question, c'est Air France ou l'aéroport, mais on va pas se faire...
Je parle de Air France, je ne parle pas de l'aéroport de Paris, mais les deux acteurs sont un peu au même niveau par rapport aux situations qui me sont
reportées.
Mais sur l'accompagnement, sur... notamment l'accompagnement sur le plan de carrière. Ça m'a beaucoup surprise parce que je sais que beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont recrutées dans les entreprises ne sont pas accompagnées sur leur évolution de carrière. S'il y a une étude ONU Femmes qui dit qu'en 2017, il y avait seulement 2,3% de femmes handicapées dans les postes de législateurs, de cadres supérieurs, dans 19 pays dans le monde, c'est quand même très alarmant. Et donc, il y a quelque chose à faire Dans ces problématiques-là.
Vous avez connu l'entreprise? Vous avez toujours été indépendante déjà?
Non, j'ai travaillé dans une entreprise. Enfin, c'est aussi les discriminations qui m'ont propulsée dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé dans deux entreprises, notamment en France. J'ai commencé dans le marketing direct dans une grande entreprise sur la place parisienne. J'ai travaillé dans une agence de communication et puis j'ai créé...
Vous avez créé après votre propre agence de communication pour accompagner des grands groupes. J'ai envie de dire, vous êtes communicante, mais en fait, quand on regarde un peu votre parcours, on regarde votre manifeste, on regarde votre site internet, En fait, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi votre job? Est-ce qu'on pourrait vous qualifier d'influenceuse,
d'influenceuse? Non, je me vois pas du tout comme une influenceuse. Je suis là pour...
Une influenceuse ne veut pas dire uniquement les réseaux sociaux.
Éclairer simplement des situations et apporter un peu d'innovation pour qu'on puisse dépasser le cadre du handicap. Thomas l'a dit, il le dit beaucoup. Le handicap, les vulnérabilités, ça nous concerne tous. C'est vraiment le ciment de l'expérience humaine. Si on regarde quand on est bébé, on est vulnérable. Quand on part, on est vieux, on va être vulnérable. Donc, ça traverse vraiment toute l'expérience de notre vie. Donc, il est important et intéressant aujourd'hui que tout le monde se saisisse de ces problématiques pour dépasser le cadre du handicap et parler d'autre chose.
Vous dites, dans votre manifesto, vous dites finalement, il faut dépasser la notion d'inclusivité, il faut que l'inclusivité, ce soit pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Je reviens, on a abordé un peu la situation tout à l'heure en parlant d'accessibilité. Si on prend la conception universelle, on parle d'un besoin spécifique qui va finalement adresser la société. On dépasse même le cadre du handicap. On va améliorer la qualité de vie, l'expérience client. Donc, on est même sur des problématiques de performance, de productivité. Donc, il faut prendre les choses par ce biais-là. On ne peut pas aujourd'hui se restreindre à parler d'inclusion, à parler du handicap. On parle vraiment de la vie.
Alors, on vous recevra l'année prochaine, je pense, dans un visage d'entrepreneur. On fera 58 minutes ensemble pour mieux comprendre, mieux vous découvrir encore. Mais vous dites souvent que rien n'était fait pour que finalement votre parcours soit un parcours heureux, de bonheur. Et pourtant, vous dites aujourd'hui, je n'ai cesse de m'épanouir. Qu'est-ce qui vous épanouit déjà?
Les obstacles nous révèlent à nous-mêmes. Parce qu'on a du potentiel, tout le monde a du potentiel. Et souvent, on ne prend pas conscience de ce potentiel-là. Quand on fait face à un obstacle, ça nous enrichit. Parce qu'on va voir les choses autrement, on va créer, on va proposer des solutions qui vont aider les autres. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas que pour moi. Je le fais pour la société dans son ensemble. Quand je décide de créer Ahadi Foundation, c'est pour accompagner les femmes handicapées à prendre leur place dans les problématiques de leadership. Encore une fois, tout à l'heure, Sabine parle de tester des projets avec des personnes handicapées ou envoyer de la communication pour avoir des retours. Moi, j'ai besoin que les personnes handicapées soient autour de la table, dans les commerces, dans les entreprises. Je ne veux pas juste qu'on les sollicite pour avoir leur feedback. Je veux qu'elles soient là pour prendre les décisions. Et c'est le projet que je porte avec Ahadi Foundation.
Et alors, ça fonctionne? Ça avance
Je viens de lancer le pilote au mois de mars. Il va être déployé tout au long de l'année en Afrique et en Europe. J'ai choisi 5 pays. En Afrique, 5 pays en Europe. Pour co-construire les outils, les adapter aux réalités culturelles, aux réalités du handicap, et puis les évaluer avant de lancer le programme en janvier 2025 avec 200 femmes handicapées qui sont chefs d'entreprise. Ce n'est pas des femmes qui sont TIH. Malheureusement, il y a encore beaucoup de fragilité dans les TIH. J'ai besoin de femmes.
Qu'est-ce qu'on appelle les TIH? Tout le monde n'est pas expert.
Travailleurs indépendants handicapés. C'est des femmes chefs d'entreprise qui ont des salariés et qui ont déjà un pied dans l'influence. C'est des femmes qui sont élues politiques. Et c'est des femmes qui sont cadres dans les entreprises. L'idée, c'est d'accélérer leur puissance, leur leadership, pour pouvoir les aider, à nous aider à incarner le plaidoyer qui est le nôtre, qui va mettre la pression au gouvernement, qui ont signé la charte de l'ONU sur le handicap et qui ne garantissent pas l'effectivité des droits. Donc c'est la question. Ils vont saturer également les médias, non pas pour raconter encore et encore des histoires de handicap, mais pour parler d'expertise professionnelle. Et ils vont créer les communautés bienveillantes, enfin, qui vont accueillir toutes les autres femmes handicapées pour qu'on puisse faire ce mouvement vers le haut, à la fois sur l'entrepreneuriat, sur les parcours politiques et sur l'employabilité, mais à un haut niveau.
Merci beaucoup, Désa. Je vous promets qu'on se retrouvera l'année prochaine pour un visage d'entrepreneur. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents à l'écoute de RCF pour l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous mes invités d'avoir répondu présent depuis la Défense Arena au cœur de l'Inclusive Day. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, 14h en DAB+ et en FM sur toutes vos fréquences RCF et dès 17h le vendredi en avant-première sur rcf.fr. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. À très bientôt. Au revoir. We'll be right back.